France Info.
France Info.
Le journal de l'économie sur France Info. Bonsoir Isabelle Chailloux.
Bonsoir.
Faut-il réguler les monnaies virtuelles ?
Eh bien oui, il faut créer un cadre juridique. C'est en tout cas ce que propose Tracfin, la cellule anti-blanchiment de Bercy, qui a remis un rapport aujourd'hui sur la question au ministre des Finances. Alors petit rappel, hein, quand on parle de monnaie virtuelle, on parle essentiellement du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une monnaie électronique qui a été créée en 2009 par un développeur informatique. Et cet argent virtuel a une valeur, un cours. Pour en acheter, il suffit d'aller sur une plateforme qui transforme vos euros en Bitcoin. Aujourd'hui, un Bitcoin vaut environ 460 €. Et en pratique, pour l'instant, ce sont surtout des sites de vente en ligne américains qui acceptent ce type de règlement. Mais les usages sont en train de se développer et il y a quelques commerces en France qui acceptent ces monnaies virtuelles.
D'où cette question autour de l'avenir des monnaies virtuelles qui échappe pour l'instant à tout cadre juridique.
Et oui, la première raison de s'intéresser au cadre juridique du Bitcoin, c'est que pour le ministre des Finances, il faut limiter les risques pour les usagers. Et il faut également empêcher que ces monnaies virtuelles soient utilisées pour des activités illégales, comme du blanchiment d'argent. Une des principales mesures proposées par Tracfin, c'est donc de lever l'anonymat des utilisateurs de Bitcoin. Un faux problème, d'après Pierre Noisa, il est cofondateur de Paymium, une start-up spécialisée dans le Bitcoin.
C'est pas une réalité, l'anonymat des transactions Bitcoin sur Internet, contrairement à ce qu'on peut lire. Les utilisateurs sont déjà identifiés chez nous par notre partenaire établissement de paiement avec qui nous travaillons, donc qui identifie les gens qui déposent des euros chez nous et qui retirent des euros ou des Bitcoins d'ailleurs. Donc l'identification des utilisateurs, elle est faite chez nous. Alors en ce qui concerne les émetteurs, l'émission est réalisée par le réseau, et le réseau est un réseau collaboratif, communautaire, donc effectivement ça supposerait d'identifier tous les membres de la communauté, ce qui n'est pas le cas. Mais hormis ce point en ce qui concerne Bitcoin, sur l'usage, il n'y a aucun souci de traçabilité, puisque les transactions sont en clair et disponibles sur Internet, donc il n'y a pas d'anonymat. Bitcoin, ce n'est pas du tout un outil adapté pour des usages illicites, puisque chaque transaction laisse une trace indélébile sur Internet.
Et ajoutons que Tracfin préconise également de taxer les plus-values réalisées via les bitcoins et de les faire entrer dans l'assiette de l'impôt sur la fortune.
La principale banque du Portugal ravive le spectre de la crise financière.
Une banque en difficulté qui, en moins de 48 heures, a fait plonger les places boursières de Lisbonne, de Madrid, de Milan. Ça n'est pas le scénario noir de l'été 2008. Ça y ressemble beaucoup, mais en fait, c'est ce qui vient de se passer. En cause, la plus grande banque du Portugal, Espirito Santo. En un mois, cet établissement a perdu la moitié de sa valeur et à l'origine de ce trou d'air, il y a la révélation des pertes colossales de la holding qui chapeaute cette banque. Le résultat, c'est qu'hier, l'autorité financière portugaise a dû suspendre la cotation du groupe. La bourse de Lisbonne a perdu dans la foulée plus de 4%, car les inquiétudes des investisseurs sur cette banque ont fait ressurgir les craintes sur la dette souveraine du Portugal. La question, c'est toujours la même. Qui paiera si jamais cet établissement s'effondre ? Alors aujourd'hui, après toute une série de messages rassurants du gouvernement portugais, le calme est revenu à la Bourse de Lisbonne. Il n'empêche, pour Jésus Castillo, économiste chez Natixis, cet épisode est révélateur. Les pays du sud de l'Europe n'en ont pas encore fini avec l'instabilité financière.
C'est vrai que depuis plusieurs mois, on dit les pays périphériques vont mieux, ils ont passé le plus dur de la crise, mais il reste quand même encore beaucoup d'inquiétudes parce que c'est des pays qui restent extrêmement fragiles et le moindre choc peut relancer la machine infernale et provoquer des effets dominos presque. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ces messages des autorités pour essayer de calmer le jeu parce qu'ils accumulent encore beaucoup de faiblesses. Ils ont des dettes publiques qui sont extrêmement importantes. Et puis après, dans l'économie réelle, on voit aussi que il y a une reprise qui est apparue depuis quelques mois, mais tout ça est très fragile et très très dépendant d'un environnement international qui lui reste aussi assez incertain.
Jésus Castillo, économiste chez Natixis. Ajoutons que l'agence de notation Moody's vient d'annoncer la dégradation de la note de cette banque, Espirito Santo, de 3 crans au niveau B3 désormais.
En France, l'État va céder une partie du capital de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.
C'est Bercy qui l'annonce. L'État, qui détient 60% de la société de l'aéroport de Toulouse, veut en effet vendre ses parts. Alors le gouvernement promet que cette ouverture du capital ne changera en rien les exigences de service public. Le nom de l'acquéreur, lui, devrait être connu à l'automne. Quant au montant de cette opération, il est trop tôt pour le dire, assure l'agence des participations de l'État. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement mène une stratégie de vente de certains de ses actifs pour enflouer les caisses. L'année dernière, l'État a ainsi vendu 9,5% d'aéroports de Paris au groupe de BTP Vinci, ainsi qu'à l'assureur Predica, une opération qui lui avait rapporté 738 millions d'euros.
L'actualité économique à retrouver chaque soir sur France Info et franceinfo.fr.